the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Ho, ho, ho. Salut les petites joueuses et les petits joueurs. Comme vous avez été bien sages, l'équipe de Proxy Jeux vous a préparé une belle sélection de jeux pour Noël. Mais trêve de blabla et en avant la musique.
Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est Dédé Schutz, et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de jeux de société. Pour ce Noël, je vais vous proposer d'offrir La Main du Roi, le jeu de cartes de Monsieur Catala sorti cette année chez FFG Edge. Un jeu sur le thème de Game of Thrones, alors même que la série est à son apogée, en voilà une bonne idée. Dans ce jeu, comme dans les livres et dans la série, il est question d'intrigues politiques et de guerres de clans. On va devoir amener à soi les différents membres des maisons, afin d'avoir en fin de partie le plus grand nombre de maisons ralliées à sa cause. Alors comment on joue ? On étale les cartes des différents personnages sur la table pour former un carré de 6 par 6. Un seul personnage est tout seul, c'est celui qu'on va incarner, c'est Varys. Sûrement il est tout seul, sûrement parce qu'il a des veines dilatées aux jambes. Bref, on va tour à tour incarner Varys et récupérer des personnages et les ajouter à notre collection. Pour cela, on doit déplacer Varys dans une direction, au bas, gauche, droite, et on récupère tous les membres d'une maison de son choix sur le passage. Puis le joueur suivant fait la même chose, et ainsi de suite. Et en bonus, si on prend le dernier membre d'une famille, on a le droit de prendre un des 6 mercenaires tirés en sort en début de partie. Il nous donnera une action spéciale en bonus. À la fin, quand on ne peut plus déplacer Varys, on regarde celui qui est majoritaire dans le plus de maisons, et c'est lui qui a gagné. Alors pourquoi c'est bien ? Déjà parce que c'est simple comme principe de jeu, on déplace Varys et on prend des cartes. Que la rejouabilité est très grande, vu que les cartes que l'on met en place sont tirées aléatoirement au début de partie, et que les mercenaires aussi sont tirés aléatoirement, et qu'il n'y en a que 6 sur tous les mercenaires qui seront actifs cette partie. Et puis aussi parce que c'est plus stratégique qu'il n'y paraît. Surtout lorsqu'on joue à 2 joueurs, où l'on maîtrise parfaitement, où l'on amène Varys pour coincer son adversaire. On reconnaît bien la patte de Monsieur Catala. Donc si vous avez des fans de Game of Thrones, ils reconnaîtront aussi les dessins des personnages, qui sont des caricatures des héros de la série. Mais je vous rassure, on peut très bien jouer sans avoir vu la série, ni lu les livres. C'est juste que l'univers vous sera moins parlant. Voilà donc pour ma recommandation, La Main du Roi. Un jeu de Bruno Catala pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'une quinzaine de minutes. Et il est seulement à 11,50€ chez notre partenaire Philibert. Alors je vous souhaite un joyeux Noël à tous, et n'oubliez pas, une fois que vous avez déballé vos cadeaux, jouez bien.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
Salut, ça baigne ? Dites-moi, à Noël, êtes-vous du genre à glisser des petits jeux de société parmi les cadeaux ? Pour tenter de faire plonger vos proches dans votre propre folie ludique. Ou pour avoir au moins l'excuse de finir la soirée autour de ces jeux tout fraîchement déballés. Dans ces deux cas, je vous recommande sans hésitation d'offrir cette année Deep Sea Adventure. Pourquoi ce jeu ? Déjà parce que l'éditeur Owen Games soigne une fois de plus son immersion, adaptant pour ce jeu son identité visuelle marquée, ici tout en gamme de grand bleu, surfant ainsi sur la vague des designs minimalistes. Ensuite parce que le format de la boîte et la durée des parties en font un jeu à emmener partout avec soi, la formule en vogue de cet éditeur à contre-courant. Parce que les règles sont légères, en adéquation avec son thème de chasse au trésor sous-marine, mais surtout parce qu'à partir de quelques principes simples, Deep Sea Adventure déclenche une aventure pleine de remous autour de la table. Les 3 manches successives sont ainsi parfaites pour faire découvrir le jeu à de nouvelles joueuses. La première manche, la confiance règne. On veut tous remonter le maximum de trésors. Chacun joue un peu dans sa bulle, mais l'air s'épuise bien plus vite que prévu. Personne ne parvient finalement à remonter sain et sec au sous-marin. C'est l'échec. La deuxième manche, la prudence s'installe. Chacun observe les autres, prêt à remonter en 4e vitesse à la première alerte. Si bien que tout le monde finit cette fois au sec, met le bec dans l'eau et rien dans les filets. La troisième manche, les deux leçons sont bien comprises, les tactiques s'aiguisent et la pêche est enfin bonne. En 30 minutes à peine, l'air de rien, les joueuses ont d'abord bu la tasse, puis fini par apprendre à éviter les écueils d'un jeu plus profond qu'il n'y paraît. Pour Noël Moussaillon, faites un grand bleu en avant avec Deep Sea Adventure, un jeu de Jun Sasaki et Goro Sasaki, publié par Owing Games en 2014, version française en 2016. Disponible chez notre partenaire Philibert au prix de 18 euros, hors frais de port. Et d'ici Noël, jouez bien.
Bonjour les proxy joueurs. Pour une fois que j'ai l'opportunité de vous parler d'un jeu qui ne soit pas forcément adapté aux enfants, je saute sur l'occasion. Et oui, même si je suis toujours Paul Gara, je ne m'adresse pas aux joueurs nés aujourd'hui, mais à ceux d'entre vous qui pourraient profiter de Noël pour se faire offrir un très bon jeu assez cher. Et oui, votre grand-mère vous a fait un chèque en blanc, votre tati vous a laissé sa carte bleue avec le code. Alors profitez-en et ouvrez enfin la porte des demeures de l'épouvante. Ok, les demeures de l'épouvante, ça cadre pas trop avec l'esprit de Noël, et vous ne pourrez sûrement pas y jouer entre les huîtres et la dinde. Mais le 26 décembre, une fois la pression retombée, vous pourrez vous mettre à cette petite merveille. Comme beaucoup des jeux FFG Edge qui recyclent l'univers de Lovecraft, les demeures de l'épouvante est un jeu coopératif dans lequel on incarne des investigateurs très mal barrés, enquêtant sur de sombres mystères susceptibles de leur faire perdre leur santé mentale. Dans l'édition initiale, un des joueurs devait incarner, en gros, le maître du jeu. Dans cette nouvelle édition, celle que je possède, ce rôle est rempli par une application, et force est de constater que ça marche très très bien. Les monstres, les événements, les combats, tout est ainsi pris en charge par l'application, qui vous ajoute également une petite ambiance sonore et visuelle parfaitement adaptée à ce jeu. Et oui, la grande force de ce jeu est l'immersion qu'il propose. Beaucoup moins mécanique dans l'optimisation des actions que les contrées de l'horreur, moins complexe au niveau des règles que Horror à Arkham le jeu de plateau ou Horror à Arkham le JCE, le jeu Les Demeures de l'Épouvante réunit tout ce qu'on recherche lorsque l'on apprécie les jeux avec une ambiance marquée, un arc narratif fort. Alors depuis le temps que j'essayais de la placer cette expression, il peut tout à fait être joué avec des non-joueurs, pour peu qu'ils aient un minimum d'appétence pour le fantastique et le mythe lovecraftien. Pour être ultra synthétique, on a un mystère à résoudre, des événements étranges et terrifiants, des combats contre quelques profonds ou larves stellaires à coups de jet de dés, et des cartes pour améliorer ses compétences de base à jouer à bon escient. On avance dans l'intrigue sur un plateau composé de tuiles qu'on va dévoiler au fur et à mesure selon les indications de l'application qui indique également les zones à fouiller, les objets à ramasser et les ennemis à affronter. Et on a aussi des mini-casse-têtes à résoudre, toujours proposées par l'application, dans le genre un petit peu de mastermind, mais assez costaud quand même. Dans ce jeu, il faut aussi une bonne dose de masochisme, car on ne gagne pas souvent. Les scénarios sont proposés par niveau de difficulté, le premier est relativement abordable, mais après ça se corse. Et il faut aussi du temps, car comptez bien 2 heures minimum pour chaque scénario. Et il est toujours possible d'enregistrer sa progression via l'application, ce qui permet de finir la partie ultérieurement si on est pris par le temps. Mais ça casse quelque peu l'immersion du jeu, et c'est parfois un petit peu dur de s'y remettre. Il existe aussi des extensions qui vous permettront de nouvelles sensations lorsque vous serez venu à bout des mystères inclus dans la boîte de base. Le seul point noir du jeu, les figurines des créatures à combattre que l'on pose sur des socles et qui y tiennent avec plus ou moins de bonheur. Alors plutôt moins de bonheur pour moi, peut-être que je ne suis pas hyper douée non plus. Bon, parlons budget, parce que c'est un petit peu aussi un des seuls reproches que l'on peut faire. 89,95 chez Philibert pour la boîte de base et 26,95 pour l'extension. Environ 5 scénarios de mémoire dans la boîte de base et 2 ou 3 scénarios en plus dans l'extension. Donc on peut considérer que ça fait un petit peu cher le scénario. Mais franchement, ça les vaut, parce qu'il y a vraiment de grandes qualités de narration dans le jeu. Et les scénarios restent rejouables, car la disposition des tuiles est générée de façon différente à chaque partie par l'application, même si le fond de l'enquête reste identique. Donc si vous refaites la même enquête, je sais pas, 6 mois plus tard, il y a peu de chances que vous vous souveniez de tous les détails, et donc vous aurez quand même une petite nouveauté. Donc en un mot commençant, foncez! Vous ne devriez pas être déçu par ce jeu pour lequel le qualificatif de culte n'est pas galvaudé. Et surtout, pendant ces fêtes, jouez bien !
je suis Fendoel, et pour Noël, je vais vous parler de Linko, un petit jeu de messieurs Kramer et Kissling, deux auteurs plutôt connus. Vous savez, ceux qui ont fait Tikal, mais aussi un petit jeu de rien du tout, c'est ce qui prend. Linko est un jeu de cartes numérotées, de 1 à 13, de 8 couleurs différentes, avec des têtes de lynx dessus, et puis il y a également 5 jokers. On distribue 13 cartes à chacun, on dispose les 5 premières cartes de la pioche, face visible, et on peut commencer. Vous voyez que la mise en place est extrêmement simple. Chaque joueur va, à tour de rôle, poser des cartes de sa main devant lui. Je peux poser, par exemple, 2, 3. En fait, autant de cartes que je veux, mais tout cet ensemble de cartes doit avoir le même chiffre dessus. Au deuxième tour, par exemple, je refais la même chose, d'accord, et ainsi de suite, en décalant à chaque fois mes cartes vers le haut, histoire que toutes les cartes posées soient visibles par tous les joueurs. Il n'y a aucune contrainte de pose. Je peux poser une seule carte 5, par exemple, puis 3, 13, puis 2, 8, etc., etc. La fin de la partie est déclenchée dès qu'un joueur n'a plus de cartes. On fait alors la somme du nombre, j'ai bien dit du nombre, hein, des cartes posées devant soi, auxquelles on soustrait le nombre de cartes que j'ai en main, et on sait qui a gagné la manche. Alors évidemment, ce n'est pas tout, il y a ce qu'on appelle un petit twist. Le voici. Si je pose, par exemple, 2, 5 devant moi, je regarde mes voisins à tour de rôle, donc dans le sens du tour, hein, s'ils ont posé précédemment une paire. Et si c'est le cas, on regarde s'ils ont une paire plus faible que la mienne, par exemple de 3, de 4, de 2 ou de 1. Et si c'est le cas, je fais le choix de leur faire défausser cette paire ou de la récupérer en main, dans ma main. Si je fais ça, bah évidemment ma main va augmenter de taille, ce qui est un risque, mais ça peut me permettre de poser de plus grands ensembles de cartes. L'autre joueur qui a perdu ses cartes va alors piocher le nombre de cartes perdues, soit parmi les 5 cartes visibles de la pioche, et ou les prendre au hasard dans la pioche face cachée. Toute la subtilité du jeu est là. On peut commencer à poser petit pour récupérer des cartes intéressantes visibles de la pioche, ou alors poser des ensembles nombreux pour protéger les cartes qu'on a en dessous, etc., etc. Il existe pas mal de stratégies intéressantes. Je vous rappelle qu'on voit toutes les cartes posées, donc on peut savoir quelles cartes on a des chances d'avoir et quelles cartes on ne va pas avoir de probabilité d'avoir. Bref, c'est un jeu hyper subtil, fin. On en redemande car les manches durent 15-20 minutes. On joue généralement un tour de table complet, c'est-à-dire que chaque joueur commencera une seule fois. Ça se joue de 2 à 5 joueurs sans problème, la mise en place est rapide, et c'est des cartes, donc ça paraît beaucoup moins exotique aux néophytes du jeu de société que je croise à Noël. Oui, j'ai une famille nombreuse. J'ai fait le test avec des joueurs de cartes classiques, donc tarot, belote, bridge, et c'est une adhésion totale. Nous avons enchaîné les parties sans pouvoir nous arrêter. Je vous le recommande aussi, parce que la boîte est moche. Enfin, elle est pas moche, mais elle fait vraiment jeu des années 90. Donc elle ne vous attirera pas l'œil au premier regard, alors que le jeu marche à fond en famille. Voilà, c'était ma recommandation de Noël. Joyeux Noël à tous! I'm dreaming of a white Christmas,
just like the ones I used to know. Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur et pour cet épisode spécial Noël, je vais mettre de côté mes analyses et comme tous les autres chroniqueurs, je vais vous faire ma recommandation d'achat à mettre en cadeau sous le sapin. Il va s'agir d'un jeu très récent qui a fait beaucoup parler de lui lors du festival d'Essen. Il s'agit de Azul, un jeu de Michael Kissling édité chez Plan B Games, ceux qu'on connaît bien puisqu'ils ont édité Century, la route des épices l'année dernière. Et justement, Azul est dans la même veine que Century, et je dirais même dans la même veine que des jeux comme Splendor, le récent Majesty, ou en plus vieux Alhambra. Des jeux simples, rapides et fluides. Chaque joueur n'effectue qu'une action à son tour, et elle reste assez simple pour que ça aille vite. L'autre point commun entre tous ces jeux, c'est aussi leurs mécaniques épurées. En gros, on a chacun un système de prise d'éléments, et un système de scoring de ces éléments, avec peut-être un bonus qui traîne ici ou là, rien de plus. Ici, dans Azul, ce minimalisme se voit même dans le matériel et le thème. Enfin, quand je dis le thème, je devrais plutôt parler d'absence de thème, puisqu'on va devoir créer une mosaïque avec des sortes de tuiles que l'on pose sur son plateau. C'est donc plus ou moins un thème abstrait. Ça serait assez dur de résumer les mécaniques du jeu juste à l'oral, car elles ne ressemblent pas à grand-chose de connu et sont donc assez contre-intuitives. Mais retenez qu'il y a, comme dans les autres jeux que j'ai cités plus tôt, une mécanique de prise de tuiles très originale, et ensuite un système de scoring basé sur la pose de ces tuiles, qui lui aussi est vraiment très malin, avec un système qui vous incitera à récupérer certaines tuiles en priorité pour les placer à côté de certaines autres, ce qui va vous rapporter des points. Mais ce côté simple ne veut pas dire simpliste, et au fur et à mesure que l'on joue, on comprend que le jeu cache une vraie profondeur. On peut réfléchir quelques coups à l'avance, et on peut chercher à vraiment ennuyer son voisin de gauche, c'est-à-dire celui qui joue juste après nous, en lui piquant les tuiles par exemple qu'il voulait. Je vous recommande donc Azul parce que c'est un jeu assez simple à apprendre, qui se joue vite, mais qui est loin d'être dénué d'intérêt. C'est pour ça qu'il fait partie de cette gamme de jeux qui peut réunir à la fois des joueurs experts comme des joueurs débutants. Et c'est pour ça que je pense que c'est un très bon cadeau à Noël. Le sentiment que j'ai quand j'y joue me rappelle un peu les jeux vidéo d'arcade. Quelque chose d'abstrait, de purement mécanique, mais avec un côté fluide et addictif. Peut-être est-ce aussi à cause de tous ces carrés de couleurs qu'on essaye d'aligner les uns avec les autres pour marquer des bonus de points. Mention spéciale d'ailleurs pour ce matériel de toute beauté, qui cette fois, contrairement à Century, ne fait pas l'erreur d'être uniquement basé sur de la couleur, et ça permet à des daltoniens comme moi d'y jouer. Voilà, c'était tout pour cette petite chronique. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et en attendant, jouez bien! Bonjour les lutins joueuses, bonjour les lutins joueurs, c'est Sirius. On m'a dit que vous cherchiez un cadeau pour Noël ou un jeu pour jouer en famille. Alors voici ma proposition. Je vais vous proposer Mot pour Mot. Mot pour Mot, c'est un jeu de Jacques Daignan, ou Daignan, je ne sais toujours pas, édité chez Le Scorpion Masqué, annoncé pour 2 à 12 joueurs. Honnêtement, on peut jouer potentiellement en plus, c'est juste un problème de place autour de la table que vous risquez de rencontrer, et donné à partir de 10 ans et pour des parties de 20 minutes. Un mot pour mot, on pourrait le définir ainsi, c'est un jeu d'ambiance et de lettres. Un jeu d'ambiance dans lequel l'ambiance pourra être parfois studieuse et parfois un peu moins. C'est un jeu qui s'adresse à toute la famille, qui va vous permettre de mélanger des gens qui sont plutôt forts au Scrabble et d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Le principe du jeu, en fait, vous allez constituer 2 équipes qui vont s'affronter. Au milieu de la table, vous avez un plateau avec 17 lettres, donc une partie seulement des lettres de l'alphabet. En fait, les lettres qui ont été supprimées, ce sont simplement les lettres qui sont très fréquentes dans la langue française et celles qui le sont très peu. Chacune leur tour, les équipes vont piocher une carte qui va leur présenter un thème. Il y en a plus de 400 dans la boîte, 440 si je dis pas de bêtises, que je pioche un thème au hasard, par exemple quelque chose dont il ne faut pas abuser, ou encore le nom de famille d'un pilote automobile, etc., etc. L'équipe va avoir 30 secondes, donc le temps d'un sablier, pour se décider sur le mot qu'elle va choisir. Donc concertation, discussion entre les membres de l'équipe pour définir le mot qui aura les faveurs de l'équipe. Et à partir de là, une fois que le mot est décidé, toujours dans les 30 secondes qui lui sont imparties, un des joueurs de l'équipe va donc tirer les lettres vers son équipe, donc il va épeler le mot, et à chaque lettre prononcée, il va avancer la lettre en question d'un cran vers son équipe. Une fois donc que l'équipe a terminé, l'équipe d'en face va faire de même, elle va prendre un nouveau thème, va avoir également à sa disposition 30 secondes pour choisir un mot en rapport avec ce thème, et avancer les lettres de son côté. Donc successivement, les équipes vont se battre pour attirer les lettres vers elles. Donc un principe de tir à la corde finalement qui est utilisé sur chaque lettre. Le but du jeu étant de faire sortir 6 lettres du plateau de son côté. Donc dès qu'une équipe a réussi à faire sortir 6 lettres, eh bien la partie est terminée. L'équipe qui donc a fait sortir ces 6 lettres est victorieuse et immédiatement l'équipe adverse demande sa revanche. Alors pourquoi je vous conseille ce jeu ? Je vous l'ai dit, c'est un jeu qui est vraiment pour toute la famille. On peut, alors ça va éventuellement dépendre des thèmes évidemment, mais on peut faire jouer, je pense, plus petit que 10 ans, à partir du moment où on les intègre dans une équipe. Parce que ce qui va se passer en fait, c'est qu'il y a les membres d'une équipe vont brainstormer finalement sur le thème. Les membres vont essayer de sortir le plus de mots possible en rapport avec le thème. Et puis au bout d'un moment, il va falloir se décider, donc c'est le moment un peu charnière, il faut se décider sur le mot à utiliser. C'est là qu'on va faire intervenir le joueur de Scrabble qui est très fort en orthographe et qui va assumer donc d'épeler le mot et de tirer les lettres vers son équipe. Et quelque part, c'est ce qui va faire que le jeu est vraiment transgénérationnel. Ça va intéresser les plus jeunes parce qu'il y a ce duel en équipe et le fait aussi d'être dans une équipe, ça a tendance aussi à rassurer un petit peu les gens. Voilà, parce qu'on n'est pas tout seul dans la victoire ou dans la défaite. C'est plus facile de faire venir quelqu'un à votre table aussi pour jouer à partir du moment où vous l'intégrez dans une équipe, mais il va pas avoir l'impression non plus que tout repose sur ses épaules. Et ce qui est assez amusant aussi dans le jeu, c'est que on va alterner tantôt des périodes où il va falloir trouver des mots assez longs avec beaucoup de lettres, surtout en début de partie en fait, où on essaie d'attirer le maximum de lettres vers soi, et tantôt on va jouer un peu plus tactique. Alors souvent plus en fin de partie parce qu'il va falloir cibler des lettres en particulier, et on va un coup jouer un peu défense parce que une équipe est en train de gagner une lettre et donc on va essayer de la ramener vers soi avec un mot qui contient trois fois la lettre par exemple. Il y a des mots qui ont la cote hein, dans ce jeu, hein. Des mots comme Mississippi par exemple, je peux vous dire que c'est le genre de mot qui a la cote, avec beaucoup de i, beaucoup de s, et c'est assez amusant parce que quand on joue avec les mêmes personnes, on va trouver un petit peu ce genre de gimmick. Alors je fais juste une toute petite mise en garde quand même avec le jeu, parce que j'ai été quand même confronté 2-3 fois à ce genre de truc, l'engueulade. Il faut éviter de jouer avec des mauvais joueurs, parce que le jeu, donc, en tout cas dans les règles, précise que en cas de doute sur l'orthographe d'un mot, on peut aller vérifier. Hein, donc bon, malgré tout, c'est assez naturel, surtout si on essaie d'aller placer 3 S quand il en faut que 2. Il y a souvent des petits litiges sur le pluriel, singulier. Moi, je vous conseille, tant qu'à faire, de simplement éliminer la possibilité d'utiliser les pluriels. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. C'est pas comme s'il manquait des S dans la langue française. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de X sur le plateau. Et puis, ce qui peut arriver aussi, c'est que y ait des litiges sur est-ce que le mot est bien en rapport avec le thème ou pas. Alors là, j'ai pas trop de conseils à vous donner, si ce n'est d'exclure les mauvais joueurs de la table et d'être relativement raisonnable et d'être relativement souple avec les gens avec qui vous jouez, s'ils ont envie d'être un peu fun. Préférez faire une revanche plutôt que de vous engueuler à la table. Hormis ce tout petit avertissement, franchement, c'est vraiment un jeu que je pense tout à fait destiné à l'ensemble de la famille. Pour son côté jeu en équipe, pour son côté transgénérationnel, c'est assez amusant de voir les jeunes qui vont vous proposer des mots auxquels vous n'auriez pas pensé, parce que c'est des mots de Jones, où la gueule de la famille vous épatait avec des mots en rapport avec la botanique. Pour moi, ça en fait vraiment le jeu idéal pour ce genre de période. C'est vraiment un jeu qui réunit la famille. Si vous voulez l'offrir également, c'est un jeu qui reste dans un budget tout à fait abordable, c'est 22,50€ chez Philibert. Et j'avais quelques regrets de pas l'avoir chroniqué dans les chroniques jeux du mois. Voilà, bah écoutez, c'est réparé. Maintenant je vous dis, profitez bien des fêtes, amusez-vous bien, mangez bien, et surtout, jouez bien.
Bonjour à tous! Pour ce Noël 2017, j'avais envie de vous parler du jeu Baobab. Ce jeu est un jeu de Joseph Alluet réédité chez Blue Orange et ici illustré par Cyril Bouquet. Alors pourquoi ce jeu? Je le trouve vraiment chouette parce qu'il peut réunir toute la famille dès 6 ans. C'est un jeu qui peut se jouer soit entre enfants, soit même entre adultes. Donc il est vraiment intergénérationnel et c'est ça que je trouve vraiment chouette. Alors, le principe, en fait, c'est qu'on va devoir construire un arbre. Alors, la boîte élaborée par Blue Orange figure le tronc de cet arbre et la base du feuillage. Les joueurs ont 108 cartes à se distribuer et à placer sur ce tronc pour faire grandir l'arbre et son feuillage. Mais on va pas faire ça n'importe comment. Chaque carte est illustrée avec un animal ou une plante qui va nous indiquer comment est-ce qu'il va falloir placer la carte sur le tronc pour que cela soit validé. On va par exemple avoir une illustration de chauve-souris qui va nous indiquer qu'on va devoir lancer la carte avec les yeux fermés. Si la carte n'atterrit pas sur le tronc ou qu'elle tombe, on la récupère et elle est perdue, elle comptera en malus dans notre main à la fin du jeu. Un autre exemple de carte, c'est le serpent. Cette carte-là doit être glissée entre deux cartes déjà posées sur le tronc. On va aussi avoir la carte caméléon, par exemple, qui va devoir être posée de la même façon que la carte précédemment posée. Et donc on a comme ça plusieurs caractéristiques et à suivre pour essayer de se débarrasser de toutes ces cartes. Alors, on va pouvoir avoir le choix à chaque fois de poser une, deux ou trois cartes selon le risque que l'on veut prendre, sachant que le premier à avoir posé toutes ses cartes déclenche la fin de partie. Quand la fin de partie est déclenchée, on compte les cartes qui restent en main que l'on n'a pas encore posées parce que l'on n'a pas pris assez de risques, et les cartes que l'on aurait fait tomber de l'arbre en posant l'une des siennes. Et donc, c'est la personne qui aura le moins de cartes à la fin qui gagnera la partie. Je vous conseille ce jeu parce que je l'ai vraiment trouvé sympathique, avec une édition vraiment belle et agréable à jouer. Ses règles sont simples et faciles à maîtriser, et c'est un jeu vraiment intéressant pour passer un moment court, donc un peu moins d'une demi-heure, en famille. Donc son nombre de joueurs va de 2 à 4. Et le prix est d'environ 14 euros. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et un joyeux Noël!
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. À mon tour de me prêter à ce petit exercice pour vous conseiller un jeu pour Noël. Alors moi j'ai choisi un grand classique, hein. Noël c'est un événement qui potentiellement peut être à la fois familial et transgénérationnel. Vous retrouverez à la fois vos petits-neveux, voire vos petits-enfants et vos grands-parents à la même table autour d'une bonne dinde ou d'un plat végétarien de Noël, ça peut aussi s'essayer. Et peut-être que vous n'avez pas envie de passer des heures d'analysis paralysis autour d'un Dungeon Lords, mais plutôt de faire un jeu où tout le monde participe pendant qu'on digère à la fois boisson et nourriture. Alors pour conseiller un jeu, j'ai choisi un classique, ce qui est devenu un classique finalement alors qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps, c'est Codenames. Je vais pas rappeler les règles, elles sont accessibles ailleurs, notamment sur le site de Yellow qui est l'éditeur en français. Vous pourrez trouver plein d'explications un peu partout. Là ce que je veux faire c'est vraiment vous conseiller le jeu. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui est très accessible. C'est toujours difficile de le classer dans la catégorie de jeu d'ambiance parce que il y a pas forcément des grands éclats de rire, ça demande quand même de la concentration pour associer les mots qu'on va devoir faire deviner à son équipe. Donc pour celui qui est l'agent, donc qui doit faire deviner les mots, il faut quand même un minimum de calme. Mais si les équipes entre elles se taquinent, se proposent des absurdités, ça peut très vite tourner à quelque chose d'assez amusant pour les deux équipes, même si ça peut un peu déranger l'agent, c'est peut-être le prix à payer pour avoir du fun autour de la table. C'est Codenames, c'est un jeu qui fonctionne par association d'idées, donc l'agent va devoir faire deviner certains mots, mais pas les autres. Et c'est toujours un mécanisme que j'aime beaucoup moi dans les jeux, que ce soit avec des images ou avec le texte. Là en l'occurrence c'est avec le texte, ça révèle toujours un peu des personnes, les références de ces personnes, la façon dont leur vécu influence les choix qui sont faits et les réponses qui sont données. Alors peut-être que pour l'agent c'est peut-être le rôle le plus difficile, parce que c'est celui qui demande le plus de concentration et le plus d'agilité mentale, puisque il y a à la fois à faire deviner ses mots, à éviter de faire deviner l'assassin et les mots des autres, etc. Donc peut-être commencer avec quelqu'un qui est plus à l'aise. Et en général, sauf exception, chacun autour de la table par la suite se rend compte que finalement c'est pas impossible et a envie de tenter sa chance. C'est un jeu aussi qui, malgré son accessibilité et son côté très grand public, et encore une fois vraiment le mot c'est transgénérationnel, peut avoir une profondeur supplémentaire avec des habitudes de jeu. Alors il y a à la fois première profondeur que j'ai déjà évoquée, c'est éviter de faire deviner les mots des autres, et quand on est dans l'équipe qui doit deviner, faire attention à ce que disent les autres pour essayer d'éliminer certains mots que ne va pas nous faire deviner l'agent. Mais il y a aussi le fait de faire deviner des mots précédents qui n'ont pas été trouvés. Du coup, il va falloir choisir avec un peu de précision le nombre de mots qu'on va faire deviner à l'aide de l'indice, est-ce que ça va impliquer, etc. Donc il y a quand même une profondeur supplémentaire éventuelle. Évidemment, il y a peut-être quelques déséquilibres possibles puisque les 25 mots sont mis au hasard et que le tirage des mots à faire deviner est lui aussi aléatoire. Alors évidemment, des fois il y a des associations plus simples que d'autres, mais en général, on fait quand même pas mal de parties et ça se lisse avec le nombre de parties. Alors c'est un jeu qui est quand même sorti en 2016 en français, donc c'est pas tout jeune. Enfin c'est pas tout jeune, ça date d'il y a un an, mais en tout cas ça date pas de cette année. Mais c'est toujours vraiment pour moi un essentiel, un jeu que j'ai ressorti beaucoup cette année, même s'il y a des jeux qui lui font de la concurrence sur ce modèle, notamment Profiler. Ça se joue à beaucoup, C'est conseillé de 2 à je sais plus combien, mais dans l'absolu il y a 2 équipes, donc on peut très bien jouer à plus et enfin, ça s'y prête très bien. Vous pouvez le sortir à Noël, encore une fois jouer avec vos grand-mères et vos petits-neveux à la même table, alors peut-être qu'ils joueront pas de la même façon, mais c'est pas grave. Et c'est réutilisable bien sûr pour le nouvel an, et puis il y a une certaine rejouabilité à la fois avec le contenu du jeu, hein, avec un certain nombre de cartes de prédisposition des mots indices, mais aussi une application qui permet de ajouter à cette rejouabilité, donc d'éviter de se retrouver avec toujours les mêmes configurations, d'autant que les mots, on les tire, mais même s'ils sont associés avec d'autres mots, etc., ou jouer avec d'autres personnes, ça va aussi modifier les parties. Alors si vous êtes en duo, notamment en couple, il est jouable à 2, hein, y a une version à 2 qui pour moi fonctionne pas mal, mine de rien, mais sachez qu'il y a une version Codenames Duet qui est préparée, que Yellow traduira certainement, qui est encore à venir pour le coup, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut, mais voilà. C'est l'occasion aussi pour moi de parler des autres versions. Il y a notamment Codenames Pictures, où là c'est avec des images. Alors c'est intéressant parce que du coup en fait ça permet d'interroger la relation au texte et à l'image, et c'est vraiment une réflexion différente. Vous pouvez aussi faire Codenames avec des choses personnelles, ça s'est vu plein de fois. Alors au Weekend Proxy Show notamment, il y a des camarades qui l'avaient fait avec des bières. Faire avec des vinyles, avec des CD, avec des jeux de société, là la mise en abyme est pas mal. Par contre, moi je vais vous inviter à éviter les déclinaisons pompes afriques qui sont prévues, comme Codenames, je crois que c'est Disney ou Marvel. Vous pouvez vous faire les vôtres, et là c'est clairement là pour faire du fric. Moi c'est pas quelque chose que je cautionne, donc je vais vous conseiller d'éviter ça, après vous faites ce que vous voulez. Donc pour moi Codenames, vraiment un indispensable pour le jeu en famille, qu'on peut offrir à un public très large, qui peut être joué avec un public très large, une belle porte d'entrée vers le jeu de société pour montrer à la fois que ça peut être très accessible et quand même avoir une certaine profondeur. Et donc voilà, ouais, vraiment un jeu que je conseille. Je vais passer à la petite fiche technique. Alors Codenames, c'est un jeu de Vladash Fatil, et ça c'est très intéressant parce qu'il a fait des jeux beaucoup plus lourds, et savoir qu'il a fait cet exercice de style de faire un jeu d'ambiance et qu'il ait réussi à ce point, c'est vraiment passionnant. Donc auteur Vladash Fatil, les illustrateurs sont Thomas Kucherowski et Stéphane Gantier pour la version française, pour la couverture qui a changé. C'est édité en français chez Yellow, c'est disponible chez notre partenaire Philibert à 17,90€. Donc voilà, vraiment un indispensable pour Noël, n'hésitez pas. Je crois que dans l'équipe de Proxy Jeux, même s'il y a quelques bémols, on est quand même très nombreux à l'avoir pris et à le recommander. Eh ben écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes à plusieurs, en duo, en couple, si vous préférez éviter la famille et l'oncle fasciste. Et donc d'ici l'année prochaine, eh bien jouez bien.
Bienvenue au manoir Warwick. Votre aide est indispensable pour apaiser la mémoire d'un fantôme qui sévit ici. Wow. Qu'est-ce que tu es en train de faire ?
Je me suis dit fantôme, Ghostbuster, tout ça.
Non mais ça va pas la tête. Si c'est sérieux. Alors reprends ton rôle et fais ça.
Ok, désolé.
Voilà, on peut continuer. Vous n'aurez exactement que 7 heures, et pas une de plus pour apaiser la conscience du fantôme, et découvrir donc celui qui l'a tué. Où ? Et avec quelle arme ? Une personne jouera le rôle du fantôme.
Hé, c'est moi !
Et jusqu'à 7 autres personnes joueront le rôle de médium. Par contre, le fantôme ne se souvient plus de qui l'a tué.
Excusez-moi, mais moi j'ai toute ma tête, hein.
J'ai dit, le fantôme ne se souvient de rien. Il n'a que des visions.
Ah bon, d'accord.
Et il ne parle pas.
Oui, bah non, mais bon, c'est que...
Il ne parle pas, j'ai dit. Bon. Pour matérialiser ses visions, il enverra des cartes de type Dixit aux médiums qui tenteront de deviner le meurtrier, l'arme et le lieu qu'il leur aura attribué au hasard ou pas dans un premier temps. Chaque médium pourra bien sûr aider ou faire perdre chacun des autres médiums. Une fois que tous les médiums auront réussi à réunir leur trio meurtrier, le fantôme aura retrouvé sa mémoire.
Ah, cool. Je pourrais parler alors.
Non.
Ah bon.
Bon, Qu'est-ce que je disais déjà ?
Vous disiez que j'avais retrouvé la mémoire, mais par contre, là, la vôtre, c'est pas trop le top, hein ?
Voilà, on peut continuer. À ce moment, tous les trios meurtriers, lieux et armes seront face à tous les médiums, et suivant les cartes que le fantôme aura dans ses mains, il en choisira un, et tous les médiums voteront seuls en leur âme et conscience. Si jamais la majeure partie des gens ont voté pour le couple choisi par le fantôme, tout le monde réussit à apaiser sa conscience.
Yes ! Pardon, j'ai rien dit.
Sinon, tout le monde perd.
Oh là là.
Alors, n'hésitez pas. De l'enquête, du suspense, de la déduction, de l'entraide, de l'imagination, de la tension. Et un travail graphique à couper le souffle. Mysterium, un jeu de Oleg Sidorenko, édité par Libellude, 36 euros chez Philibert. Un jeu qui vous tiendra en haleine jusqu'aux 12 coups de minuit et l'arrivée du Père Noël.
Du fantôme, vous voulez dire ?
Mais qu'est-ce que t'es lourd !
Ah bon ? Vous trouvez ? J'étais pas bien ? Ah, sinon on peut la refaire, hein ? Moi je peux tout faire.
Non, surtout pas.
Bon, jouez bien alors.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas.
Voilà les amis, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur. On se revoit l'année prochaine, et d'ici là, jouez bien. Oh, oh, oh.